Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour cette animation musicale. Ces nouvelles semaines qui démarrent. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Alors aujourd'hui, nous recevons la Maison des Lendemains avec le docteur Bertrand Lèze, chef du service de médecine légale, et Anaïs Pérez Mora, infirmière. Bonjour, comment allez-vous tous les deux?
Bonjour, merci de nous accueillir.
Bienvenue.
Merci.
On va passer une petite heure ensemble et on va découvrir ce qu'est cette maison des lendemains. On espère que des lendemains en chantant, il y en a pour des personnes qui en ont besoin. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour le début de cette émission. Et c'est reparti, donc, comme je disais en introduction, donc, nous avons la maison des lendemains et nous avons le docteur Bertrand Lèze et Anaïs Pérez Mora qui est infirmière. On a écouté les infos, ça illustre déjà, une partie des infos illustre déjà un petit peu le sujet qui vous amène aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui.
Malheureusement. C'est monnaie courante, j'allais dire, hein, voilà, forcément les infos, je les écoute tous les jours ici, et je l'en ai fait parfois. On va voir quand il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, vous en faites partie. En préambule, on demande toujours à nos invités s'ils veulent bien faire une petite bio personnelle, une petite présentation de la trajectoire qu'ils ont parcourue dans leur vie pour être à ce jour au micro. Qui est-ce qui ose s'y lancer aujourd'hui?
Bon, manifestement, c'est moi qui commence.
Allez.
Alors, une petite bio. Donc moi, je suis le docteur Bertrand Lèze, je suis urgentiste sur le centre hospitalier de Dax là, depuis 2004. Et je suis aussi médecin légiste, c'est une autre spécialité. Et petit à petit, en fait, mon activité a basculé vers la médecine légale et vers l'accueil des victimes, pour être maintenant, effectivement, chef de service d'un service qui se compose de trois entités, dont la Maison des Lendemains. On va en parler. Pourquoi je me suis lancé dans cette activité, c'est que, comme urgentiste, à la fin des années 2000, on s'est aperçu avec d'autres collègues, notamment assistantes sociales, cadres de santé, mais qu'en fait, il fallait prendre en charge des victimes de violences. Et à l'époque, effectivement, c'était compliqué, notamment sur les violences sexuelles, où des fois, il fallait plusieurs heures avant qu'il y ait des constatations de faits. Et on laissait un peu les victimes toutes seules. Donc, on a pris en charge ça. Et petit à petit, voilà, l'activité est montée pour maintenant avoir un service en constante évolution et très axé sur l'accueil des victimes.
D'accord. Bon, on reviendra tout à l'heure. On va écouter la présentation d'Anaïs. On reviendra sur le terme de médecine légale, parce que je crois qu'il y a une petite mise à jour à faire, comme d'habitude. Il faut passer, après toutes les séries américaines et françaises aussi, il faut faire un petit peu de vocabulaire des fois. C'est à votre tour maintenant, Anaïs.
Moi, je suis infirmière issue des urgences également depuis 5 ans. Et puis, j'ai été amenée à rencontrer le docteur Lèze. Et puis, on a pu échanger autour de la prise en charge des violences et différentes prises en charge dans les agressions sexuelles qu'on accompagne aux urgences en première intention. J'ai eu la possibilité d'intégrer l'unité médico-judiciaire en temps morcelé au départ. Puis l'opportunité s'est présentée à moi de pouvoir prendre un temps plein, et c'est ce qui s'est passé depuis octobre. Je me suis tournée vers cette prise en charge là beaucoup plus humaine, et voilà.
D'accord. Donc ça veut dire que, voilà, avant vous étiez infirmière à l'hôpital, et maintenant vous êtes spécialisée, vous êtes juste dans cette structure-là, vous occupez de ça. C'est la même chose pour vous, docteur, vous aussi?
Pas complètement. Moi, j'ai encore une petite activité, effectivement, aux urgences. Après, effectivement, dans l'équipe, en fait, il faut voir notre service comme trois entités, effectivement deux entités qui sont sur le centre hospitalier lui-même, une vraiment basée sur réalisée pour accompagner les victimes qui viennent de subir des violences et constater les violences, une autre unité pour les mineurs, spécifiquement pour l'accueil des mineurs et l'audition de ce qui leur est arrivé. Et après, la troisième unité, c'est effectivement la Maison des Lendemains, qui est quand même une structure hospitalière. Mais avec un fonctionnement un peu atypique et qui n'est pas sur le site principal, mais qui est délocalisé dans un lieu qui est un peu neutre, en fait.
D'accord.
Et nos infirmières sont à temps plein et tournent sur les trois structures, en fait, suivant les aléas des plannings.
D'accord.
Voilà, et c'est pour ça qu'Anaïs et trois autres infirmières sont à temps plein, et nous, non, moi j'ai encore un peu de temps aux urgences. On n'a pas encore assez de financements pour mettre des médecins à temps plein sur les structures.
Ah oui, j'imagine. Alors, on va parler aussi, voilà, vous êtes spécialisé, vous avez parlé de la médecine légale, donc on va redéfinir un petit peu qu'est-ce que c'est la médecine légale, et puis comment est-ce qu'on devient médecin légiste? Est-ce que c'est pas une spécialité, mais une formation, un certificat, c'est quoi en fait?
Alors si, c'est une spécialité, comme une autre. D'accord. Effectivement, à part entière. Moi je suis généraliste de formation, et dans les années 2000, effectivement, comme la médecine d'urgence, c'était des spécialités qu'on pouvait faire par différents biais, donc moi j'ai fait ces spécialités. C'est intéressant ce que vous dites, puisqu'effectivement dans les années 2000, la médecine légale, c'était principalement les morts et les scènes de crime et les choses comme ça. Et effectivement, dans tout le milieu télévisuel et les séries, on voit que ça. Alors que c'est pas du tout une activité prédominante. Ce qu'on appelle la thanatologie, donc les scènes de crime, c'est 10% d'activité. La majorité des activités, c'est l'accueil des personnes vivantes. Agression sexuelle, violence conjugale, maltraitance à enfants, c'est 90% de l'activité, et c'est l'activité qui explose en fait.
Et oui, c'est ça. Ouais. Voilà.
Depuis 2015, on a ce changement de fonctionnement de la médecine légale, et voilà, il faut s'occuper des vivants, effectivement. Et puis, il y a cette activité de conseil aussi, parce que la médecine légale, ça fait toujours un peu peur, en fait, et de conseil notamment aux soignants, pour les aider dans la rédaction des signalements judiciaires, dans l'accompagnement et la possibilité de voir des victimes dans nos structures. Donc, voilà, la médecine légale a vraiment cette partie médecine légale du vivant qui est importante.
D'accord, c'est un petit peu comme les pompiers, on pense toujours au feu. En fait, c'est ce qu'ils font le plus, c'est du secours aux victimes, aux personnes, etc. C'est à peu près, je crois, 80%. C'est un métier qui n'est pas forcément celui que les petits garçons rêvent au départ avec le camion. Médecin peut-être aussi, c'est pareil. Alors médecine légale, du coup, dans votre formation, vous avez aussi intégré, j'imagine, la dimension légale. Vous avez un volet de connaissances sur la législation qui concerne par rapport à tout ce que vous faites dans votre quotidien.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est l'interface, mais enfin pas que le médecin, d'ailleurs toute l'équipe, on est l'interface entre l'hôpital et la justice. Alors ça a son sens, notamment dans une petite ville comme chez nous, puisqu'en fait, on arrive à échanger avec les services d'enquête et le parquet régulièrement. On est très souvent en lien pour telle et telle situation. C'est un peu l'intérêt et l'avantage des villes à taille humaine, où on peut avoir un échange humain et... voilà, et notamment pour bénéficier à la victime, bien évidemment, dans un réseau en fait qui est quand même compatible avec un échange, quoi.
Alors cette structure, cette maison des lendemains, on a compris qu'il y a plusieurs entités. C'est quoi son histoire? Ça existe depuis combien de temps? Ça fonctionne concrètement depuis 2025, mais ça a été pensé avant?
Oui, alors la maison des lendemains, donc en fait c'est ce qu'on appelle une maison des femmes santé. Donc on a répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé pour pouvoir effectivement savoir si on était en capacité de présenter un projet cohérent. L'idée, c'est après avoir subi des violences, en fait, c'est de proposer un lieu où les victimes vont pouvoir se reconstruire. L'idée, c'est d'avoir une consultation, enfin une possibilité d'avoir un accueil pluridisciplinaire avec différents professionnels de santé et aussi pas forcément de santé, donc notamment juridique, pour que les victimes puissent être orientées, qu'on puisse leur proposer un parcours de soins et que derrière, après, on puisse les aider à la reconstruction une fois qu'elles ont subi des violences.
Oui. Oui, alors c'est vrai que là, on pense, pour première chose, on pense dans ce que vous dites, on pense toujours à une femme qui a subi des violences sexuelles, une agression ou peu importe. C'est vrai que la première chose normalement qu'on est censé faire, j'imagine, c'est d'aller voir la gendarmerie ou la police. Et là, c'est quand même un endroit où... Enfin, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce problème-là, mais ce qu'on entend dire souvent sur les réseaux sociaux où des femmes m'en parlent, c'est pas toujours facile, ça. C'est, entre guillemets, plus facile d'aller vous voir à vous. Vous êtes plus attractif que la police elle-même.
Ouais, alors après, l'attractivité... Le parcours classique, c'est on n'est pas là pour se substituer, nous, à la justice,
Bien sûr, au contraire.
Le parcours classique, c'est effectivement plainte. Et puis derrière, nous, on prend en charge la victime. Ça peut être sur le centre hospitalier, d'ailleurs, initialement sur nos autres structures. Et puis secondairement, après, on lui propose du soin pour justement qu'elle se reconstruise. Mais effectivement, notamment dans les cas de violences conjugales, c'est pas toujours simple. Effectivement, ça peut être des violences qui vont être détectées par des soignants, par exemple, qui vont nous adresser la victime, qui a besoin d'avoir une réflexion et un accompagnement, ne serait-ce que pour lui expliquer comment est l'intérêt de porter plainte. Et là, effectivement, nous, notre structure peut être adaptée dans ce fonctionnement-là. En plus des parcours de soins qu'on peut proposer aux victimes, on peut aussi accueillir les victimes pour des procédures, ce qu'on appelle de recueil de preuves sans plainte et d'accompagnement à la plainte. On leur a expliqué l'intérêt. Voilà, constater des violences et les mettre de côté si elles ont besoin du certificat. on s'adapte à la temporalité de la victime.
Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est vrai que le terme plainte, hein, tout de suite, là, ça peut faire peur à des gens, hein, c'est sûr. Notamment, ben, voilà, pour ceux qui ont eu l'occasion dans l'envie de croiser des femmes victimes de violences conjugales, d'emprises, etc. C'est assez rare, j'ai l'impression qu'elles s'en sortent toutes seules. C'est-à-dire vraiment qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur entourage ou une structure qui va leur permettre de faire le premier pas, parce que justement, le problème de l'emprise elle-même, psychologiquement, c'est qu'on est, est coincé dans un système et on a peur, on n'arrive pas à en sortir. Donc vous avez vraiment, on parlait de médecine légale, mais donc la partie psychologique est très importante, forcément.
Ah oui, totalement. On s'est rendu compte, nous, que puisqu'on a ouvert en octobre 2025, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir accéder à un suivi psychologique, et encore plus quand on est victime, puisque c'est une particularité d'un accompagnement assez spécifique, en tout cas au départ. Mmh. On s'est rendu compte qu'il y a un réel besoin. Nous, le but de la structure, c'est vraiment de faire un premier point avec une des infirmières de la structure et d'évaluer un petit peu les besoins de la victime, dont ses besoins, en tout cas au niveau psychologique, et de l'orienter de la meilleure des façons possibles, avec un premier accompagnement chez nous et un relais vers l'extérieur. Dès que possible.
Très bien. On va détailler après cette petite pause. On va détailler un petit peu le trajet type d'une personne qui se présente chez vous, ce qui se passe, et comment elle est prise en charge. On va faire donc une première petite pause musicale d'une chanteuse qu'on aime bien, Souvenir FM. On parlera un petit peu de sa vie personnelle, puisque des gens doivent le savoir, mais bon, elle a subi aussi beaucoup de choses. On se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà de retour avec nos invités de la Maison des Lendemains. Bon, c'était Tina Turner, hein, donc là, beaucoup de gens connaissent l'histoire de Tina Turner. Voilà, un jour, elle a réussi à se libérer de l'emprise de Ike, son mari, et c'était une très grande artiste. Et voilà, elle était sous son emprise. Oh, ça me fait penser un petit peu à la trajectoire des Jackson 5 avec le papa, Michael Jackson, etc. Il y a eu voilà, un petit peu un fonctionnement un petit peu voilà, toxique dans ce sens-là aussi. D'ailleurs, vous recevez des gens qui n'ont pas forcément des blessures physiques, mais des blessures psychologiques, hein, des témoins, des victimes ou des témoins d'actes de violence morale. Ça fait partie aussi des gens que vous recevez.
Oui, bien sûr. Alors, notamment la prise en charge des violences psychologiques ou la partie psychologique des violences subies, notamment dans les cas de violences intrafamiliales. Les choses ont considérablement changé depuis 2015 à peu près. Les phénomènes MeToo, c'est qu'effectivement, on sent que les violences psychologiques sont prises en charge la justice dans la plainte. Voilà, les violences, c'est pas parce qu'il n'y a pas de marque qu'il ne s'est rien passé. Quoi. Oui. Les violences psychologiques et verbales, parce qu'il y a beaucoup de violences verbales aussi, sont à part entière des violences. En fait. C'est même plus que ça. Nous, on a des victimes qui nous disent clairement « je préfère recevoir une gifle en fait, que me faire dénigrer, me faire insulter et, voilà. Et dégrader tous les jours. »
C'est vrai que la marque rouge de la gifle s'efface plus vite que la blessure qu'on a dans la tête. On en a tous. On avait reçu une association aussi spécialisée dans les syndromes post-traumatiques. Au départ, c'était des militaires, hein, des soldats, mais aussi ça s'est étendu, comme beaucoup d'associations, ils sont étendus à tous les victimes de violences psychologiques, de traumatismes. Et donc, on en avait parlé de ça. Et c'est effectivement une blessure qui est invisible, hein, donc, mais elle est bien là. Alors, je vais parler un petit peu de l'équipe, parce que oui, vous avez quand même... vous avez des gens et avec des spécialités différentes au cœur de votre équipe.
Effectivement, moi je suis donc médecin légiste. J'ai ma collègue, le docteur Garnier, qui m'aide à coordonner notamment le parcours des victimes en lien avec nos infirmières, qui est comme moi en temps partiel, et on espère à un moment ou un autre pouvoir augmenter notre temps. Ça, c'est valable aussi pour quasiment toute notre équipe, puisqu'effectivement on a tous, ça fait beaucoup de professionnels, mais on a tous d'autres activités, on est peu à être pour l'instant en temps plein, mais les choses vont évoluer. Donc effectivement on a les infirmières comme Anaïs qui sont dans l'équipe, on a nos secrétaires, et on a effectivement aussi une assistante sociale, une psychiatre, une psychologue, et des sages-femmes qui commencent à venir avec nous dans la structure, et on espère pouvoir développer ces ressources humaines, en espérant en avoir d'autres. On a plein d'idées pour ça. Et puis la thématique des violences, c'est un peu sans fin.
Oui.
Voilà. Et puis on a aussi des puéricultrices qui s'occupent des mineurs, qui sont plutôt sur l'hôpital, mais qui commencent à venir sur la maison dès le lendemain. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un accueil multidisciplinaire. Mmh. Et se rajoutent effectivement après nos partenaires habituels, notamment juridiques comme la DAVEM, le CIDF, les avocats et la maison du logement.
Oui.
L'idée, c'est que la victime puisse avoir un parcours avec tous les professionnels dont elle a besoin dans le même lieu.
Oui. Alors, justement, les victimes, c'est quoi un petit peu les profils? Vous avez une idée un petit peu? La majoritairement, ce sont des femmes victimes de violences,
oui,
j'imagine.
La majorité des victimes qu'on accompagne aujourd'hui sont des femmes, mais pas que. On a fait le choix d'appeler la structure la Maison des Lendemains, même si on reste... sous le nom d'une maison des femmes santé, on a fait le choix d'accueillir des hommes et des enfants, parce que pour nous, ça nous paraissait quand même indispensable aujourd'hui de ne pas sectoriser. Donc oui, une majorité de femmes, mais pas que. Voilà, on reste toujours quand même assez ouvert. La victime type, non. La victime type, c'est quand même difficile de donner une victime type. Chaque victime est différente, mais surtout sur un accompagnement de victimes de violences intrafamiliales ou d'agressions sexuelles. Voilà.
Alors en général, ce sont les victimes elles-mêmes, les personnes concernées qui viennent vers vous, ou elles sont redirigées par d'autres structures, ou par même des fois un proche qui va peut-être mettre le pied à l'étrier. Hein, je parlais des femmes battues, etc. Comment ça se passe ?
Au tout départ, comme la structure est ouverte depuis récemment, c'était beaucoup d'orientation, soit depuis l'unité médico-judiciaire qui fait partie de notre entité, où on orientait c'est des victimes à la suite d'un dépôt de plainte, ou grâce au repérage qui pouvait être fait dans les différents services hospitaliers. Puis au fur et à mesure, là, on arrive de plus en plus à se faire connaître, malgré tout. Donc on a des victimes qui nous contactent directement, des médecins traitants, tout ce qui est professionnel de santé extérieure, des professionnels sociaux aussi extérieurs.
Oui.
Oui, évidemment, des familles qui même, eux, vont nous contacter d'abord en premier pour savoir un peu comment ils pourraient accompagner leur entourage dans ces...
Oui.
Dans ces problématiques-là.
J'imagine que vous êtes en lien avec le CPTS aussi, parce qu'on en a reçu plusieurs fois ici. C'est un dispositif qui est en train de s'étendre, pas mal, à travers le territoire, qui est relativement récent, et on a bien compris l'utilité qu'a cette structure, qui permet de coordonner les actions et l'information entre les différents professionnels de santé. J'imagine que vous avez un lien avec eux aussi.
Oui, on est en lien avec les CPTS. Alors, juste pour revenir sur ce que Anaïs disait, c'était important pour nous, effectivement, que la structure soit pas que dédié aux femmes. Il n'y a aucun débat, 95% des victimes, c'est des femmes chez nous. Mais forcément, il y a les mineurs à prendre en charge, qui sont de manière automatique, garçons et filles, et qu'on prend en charge. Nous, effectivement, notre structure, c'est quand même beaucoup de violences intrafamiliales et de violences sexuelles, majoritairement, c'est ça. Et puis, pour ce qui est des hommes, juste une aparté, c'est qu'il y a des hommes victimes, on le sait, mais il y a aussi l'implication des hommes à mettre en place. On ne voulait pas que, justement, il n'y ait pas d'implication des hommes, ne serait-ce que dans la formation, dans la détection. Et notre parrain, qui est Bruno Solo, qui est très impliqué dans la formation, ça paraissait logique d'avoir ce nom-là. Les CPTS, on est très souvent sollicités. On en a fait deux au mois de mai avec nos autres partenaires qui sont aussi... On fait des soirées, en fait, de formation. De toute façon, la formation, notamment au réseau libéral, ça fait partie de nos missions. Et c'est logique,
bien sûr,
en fait. C'est vraiment proposer de l'information et de la sensibilisation aux soignants qui sont souvent tout seuls à prendre en charge en libéral une victime. Et c'est compliqué tout seul.
Oui.
Et l'idée, c'est vraiment... On vous donne les outils pour détecter, en fait, et repérer les violences, notamment dans les cas de violences intrafamiliales. Et après, vous pouvez nous confier les victimes pour que nous, équipes spécialisées, on la prenne en charge. Mais c'est important de ce réseau, en fait.
Très bien. Oui, on peut imaginer effectivement que c'est le médecin traitant ou de famille qui va détecter des choses pas normales. Et effectivement, maintenant qu'il sait que vous existez, il saura rediriger la personne qui en aura besoin. On va déjà faire une deuxième pause. On va écouter un petit peu de musique encore et le flash info local ce coup-ci. Et on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. Nous voilà de retour. Alors, on a écouté Christine and the Queens. Et voilà, c'est pas un hasard. Hein. Elle a subi des violences, des agressions sexuelles et viols subis dans sa jeunesse. Et elle milite maintenant pour la libération, la parole des victimes, hein, et la déconstruction des stéréotypes de genre. Et Angèle, ben voilà, elle aussi, elle y a eu droit, ado, agressions sexuelles. Et elle, bien sûr, elle travaille en lien avec des associations de lutte contre les violences sexuelles. Voilà, donc. Même les personnes connues sont pas différentes des autres, hein, voilà, elles ont des fois la même trajectoire. En parlant de trajectoire, on va parler un petit peu du parcours de la personne qui arrive chez vous et comment est-ce que ça se passe, la prise en charge. Racontez-nous un petit peu ça.
Alors, il y a plusieurs donc portes d'entrée, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin comme on en discutait tout à l'heure. Donc, l'orientation par des professionnels extérieurs, l'orientation spontanée ou l'orientation via nos services déjà hospitaliers. Le parcours est le même, on va dire, pour les victimes. En tout cas, le premier entretien est fait par une des infirmières, pour lequel on a créé vraiment un entretien type, avec des questions à poser, où là, vraiment, l'objectif, c'est de balayer, si je puis dire, beaucoup d'items, donc la partie déjà administrative, son récit, l'histoire de la victime, pour qu'on se situe un petit peu, si elle a déposé plainte ou non, la partie sociale où on fait un petit peu le point sur sa vie sociale, son entourage, la partie médicale et la partie psychologique. Et en fonction de ça, on échange en équipe sur un parcours de soins adapté aux besoins de la victime. Donc on va vraiment s'adapter en fonction de la victime. Chaque parcours est différent et donc là, comme le disait le docteur Lest tout à l'heure, on a les différents professionnels qui interviennent. Et donc, on va créer ce parcours de soins en lien avec la victime, avec son accord et les différents professionnels. L'accompagnement, il peut se faire sous différents types, donc plusieurs rendez-vous. Mais on peut procéder aussi par des rendez-vous sous type d'hôpitaux de jour, où là, vraiment, les victimes vont venir sur une demi-journée, voire une journée entière, avoir les différents professionnels. Et on s'est rendu compte, avec la petite expérience qu'on a maintenant, que vraiment, ça leur permettait de centraliser les informations, même si des fois, ça peut paraître lourd comme ça de l'extérieur. On se rend compte que, et les victimes nous le disent bien, que ça leur permet vraiment de savoir exactement où elles en sont, à quel moment, et même de revenir vers nous assez facilement.
Oui, ce qui est important pour les associations qui gèrent des choses un peu comme vous, c'est que les victimes, les personnes qui ont besoin de vous, elles ont un interlocuteur. Ça, c'est un petit peu comment dire quand c'est un peu bête, je veux dire qu'en comparaison, mais quand vous voulez construire une maison, il y a plein d'artisans à coordonner, c'est vraiment la prise de tête. Mais quand il y a l'architecte qui prend en charge les travaux, ben on a un seul interlocuteur et c'est vachement rassurant. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est ils ont un interlocuteur, ils savent que là ils sont bien accueillis, avec bienveillance, et qu'il y a une offre globale, ils vont être pris en charge là, ça c'est super important ça.
Oui, c'est une offre de soins pluridisciplinaire. Après, je voulais rajouter quand même que pour être pris en charge dans notre structure, le dépôt de plainte n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un critère en tout cas d'inclusion. Nous, on peut les accompagner au dépôt de plainte via un dépôt de plainte simplifié qu'on a mis en place avec le tribunal de Dax. Donc c'est un questionnaire qu'on remplit avec la victime. Et en fait, ça fait foi de pré-plainte.
D'accord.
Donc ça peut être aussi une porte d'entrée, mais ce n'est pas une obligation. Donc c'est important quand même de le stipuler et de dire que nous, l'objectif, c'est toujours de les accompagner vers, mais sans leur imposer quoi que ce soit.
Oui, c'est vrai que comme on disait tout à l'heure au début, c'est vrai que la plainte, ça fait peut-être un peu peur. Et effectivement, il ne faudrait pas rebuter les gens qui ont besoin de se tourner vers vous. Hein. Alors on va parler aussi d'un truc qui ne va pas forcément être gai, ça va être en parler un petit peu de chiffres, hein, les réalités du terrain. Vous y êtes confrontés tous les jours. Qu'est-ce qui se passe dehors?
Alors oui, effectivement, les chiffres, mais une structure comme la nôtre. Alors nous, effectivement, c'est important ce qu'a expliqué Anaïs, c'est qu'on a pensé de se mettre... c'est la victime qui va nous donner la temporalité. Voilà, chaque victime est différente, chaque parcours va être différent. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une cohérence sur nos trois différentes unités, que ça soit pour une victime, mais aussi donc pour les enfants, souvent, qui sont aussi témoins et donc victimes directes de violences. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Donc avant de vous parler des chiffres, effectivement, nous, on a une couverture en fait donc sur la maison des lendemains tous les jours, non-stop, de 9h à 17h.
Oui.
Et même quand la structure est fermée, s'il y a vraiment un problème aigu, on prend le relais, nous, effectivement. On a une astreinte H24.
Ouais.
Le week-end, nos infirmières sont là aussi. Ce week-end, c'était Anaïs qui a travaillé tout le week-end. Et effectivement, on reçoit des victimes suivant le côté urgent de la prise en charge, suivant les nécessités. Voilà, donc l'idée est de coordonner, d'adapter. Pour ce qui est des chiffres, l'année dernière, donc avant, sur un bilan de 2025, l'ensemble de notre service, on a vu 1500 victimes. Ce qui est quand même assez important, même considérable, dont 800 de violences intrafamiliales. Pour ce qui est des mineurs, ça a été 500 mineurs pris en charge. Voilà. Donc depuis que notre structure là a ouvert, donc fin octobre, donc en plus de cette activité initiale, là on a pris en charge plus de 150 victimes. On a fait entre 400, les chiffres sont en train d'être réactualisés, mais on est au-delà de 400 consultations, donc sage-femme, assistante sociale, médecin, voilà, multiples, plus les prises en charge qu'on fait nos partenaires. Donc on voit, alors qu'on n'a pas encore toutes les ressources humaines qui sont indispensables, et donc on n'a pas les ressources humaines tous les jours, on voit que c'est quelque chose qui prend de l'envergure, et on le savait, hein, qu'on ne serait pas au chômage, quoi.
Et oui, malheureusement. Et alors, en termes de financement, comment est-ce que vous fonctionnez, d'où viennent les moyens financiers qui permettent de fonctionner?
Alors, les maisons des femmes santé, c'est des fonctionnements qui sont un peu hybrides, en fait. Donc, à la différence de nos autres unités hospitalières pour les victimes, où là, effectivement, c'est des structures purement hospitalières avec des subventions, mais les maisons des femmes santé, c'est des structures hybrides. Il y a effectivement une petite partie de financement qui sont sur des subventions de l'Agence régionale de santé, hein, puisqu'effectivement, on est une entité de l'hôpital. Dans l'idée, c'est aucun reste à payer pour les victimes. Donc effectivement, il y a certaines consultations qui peuvent être facturées à l'assurance maladie, notamment les consultations médicales ou sage-femme ou de l'hospitalisation de jour. Mais après, il y a plein de choses qui ne sont pas facturées. Et donc, en fait, pour fonctionner, les maisons des femmes santé, ils ont besoin d'avoir des mécènes et des partenariats qu'on va faire avec des gens qui vont pouvoir nous aider afin de financer du soin. Puisqu'il n'y a pas que les consultations, on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi les reprises d'activité, des ateliers de reprise d'estime de soi, des groupes de parole. Il y a beaucoup de partenariats qu'on va essayer de développer au fur et à mesure, et aussi des consultations qui pour l'instant n'ont pas été mis en place, mais qu'on essaiera de financer, nous, par le biais de notre association, notamment des consultations d'ostéopathie, de sexologie. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Donc voilà, c'est des financements un peu hybrides, et effectivement, à peu près, on sait que les financements sont à plus de la moitié due à du mécénat, en fait, dans ce type de structure.
Alors vous parliez de sexologie. Alors c'est vrai que quand on sait que maintenant la plupart des gamins, je ne sais pas à quel âge, je n'ai pas les chiffres en tête, sont confrontés à la pornographie très tôt, qui est souvent plutôt, c'est quelque chose de violent et de dégradant pour la femme en général, Et du coup, effectivement, peut-être que remettre un petit peu les idées dans le bon sens à certaines personnes qui elles-mêmes ont été témoins juste de choses qu'on leur a montrées avec un biais déjà très très fort, c'est peut-être important aussi, effectivement, cet aspect-là.
Ben là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a mis en place depuis quasiment le début. Comme on prend également en charge des mineurs sur la structure, on a proposé une consultation pour ce qu'on appelle les grandes mineures, qui n'ont pas spécialement d'accompagnement sage-femme ou gynécologique. Et ça nous paraissait en tout cas quand même important de proposer une consultation, voire un début de parcours avec les sages-femmes ou les gynécologue de l'hôpital, parce que ils sont confrontés de plus en plus jeunes à tout ça, et ça nous paraissait important qu'elles soient en tout cas sensibilisées et informées à tout ça.
Oui, alors c'est vrai que le fait d'être confronté jeune à des images pornographiques violentes, c'est déjà une violence psychologique, en fait. C'est déjà une forme de traumatisme sans qu'on s'en rende compte, en fait. Notre gamin dans sa chambre, sur son téléphone, ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, il peut être en train de subir des choses dont on n'a pas vraiment conscience.
Exactement. La prévention fait partie de nos missions complètement. De toute façon, on ne peut pas se maintenir à simplement voir des victimes. Il faut travailler sur l'amont et sur la prévention pour changer les mentalités et changer les choses. Mais effectivement, on s'est aperçu, vous voyez, en très peu de temps, en fait. Ce que disait Anaïs, le fait que notre structure interagisse, enfin que ça soit au sein d'un même service avec trois entités différentes, notamment par rapport aux mineurs, on s'est aperçu que les grandes mineures ne veulent pas révéler des faits même à l'hôpital parce qu'elles sont pas malades, elles ne veulent pas aller en gendarmerie, et leur proposer la possibilité d'être entendues par la gendarmerie dans un lieu neutre, donc de délocaliser en fait ce que nous faisions sur l'hôpital pour ces mineurs, c'était déjà une première chose, et derrière en fait on s'est aperçu que ben, ces jeunes mineurs, elles ont commencé leur vie sexuelle, mais elles n'ont jamais vu un gynéco, elles n'ont jamais vu une sage-femme, et en fait ça permet de les ramener dans le soin et dans la prévention, et voilà, et ce type de structure existe pour ça en fait, c'est vraiment proposer du soin et de l'aide à des victimes qui ont subi des violences.
Bien sûr. Bon, on va faire une dernière pause musicale, hein. On va attaquer la dernière partie de cette émission. J'allais dire, malheureusement, il y aura encore beaucoup de choses à dire. On va faire la conclusion de cette émission, on a encore des choses à dire. On se retrouve après ça. Et nous voilà à la dernière partie de cette émission. C'était Matt Pokora. Vous voyez, j'ai mis un homme parce que lui aussi, il a dénoncé des violences et des harcèlements dans son milieu professionnel. Et il soutient la cause LGBTQ+, et les discriminations, et les contre-discriminations. Donc voilà, c'était pour illustrer le fait que majoritairement c'est des femmes, mais tout le monde malheureusement peut y passer à cette moulinette. Alors, il y a des projets, des choses qui vont arriver, et de l'actualité chez vous.
Oui, alors on sort d'une activité dense là il y a quelques semaines puisque on a eu l'inauguration avec la ministre Aurore Berger qui est venue dans nos locaux, et puis un colloque infirmier en médecine légale que nos infirmières ont intensément organisé pendant 2 jours où effectivement on a eu de très nombreuses structures hospitalières et de maisons des femmes qui sont venues sur Dax. Donc maintenant il faut qu'on trouve de nouveaux projets, on a trouvé déjà. Donc on va faire une journée, on est en train d'organiser une journée porte ouverte notamment pour tous les mécènes et nos nouveaux partenaires qui nous aident. Donc je vais pas tous les citer parce que je vais forcément en oublier. Donc voilà, et on est en train de structurer pour le 25 novembre 2026, donc qui est effectivement une des journées importantes en termes de lutte contre les violences faites aux femmes. On est en train de voir pour une journée complète avec plusieurs animations. Je vous dévoile pas pour l'instant plusieurs détails, ça reste la surprise. Mais effectivement, on va essayer de faire quelque chose d'un peu original. Et nous, ça fera un an qu'on aura ouvert. Donc on s'est dit qu'on voulait essayer de faire quelque chose sur cette date-là.
Très bien. Alors, c'est plus facile d'avoir des projets que des financements. Hein. Donc, parlons de ça. De quoi vous avez besoin? Quels sont vos besoins? Allez-y.
Aujourd'hui, comme le disait le docteur Lest tout à l'heure, une grande partie des financements d'une maison des femmes santé, c'est les mécènes. Donc aujourd'hui, on est toujours en recherche de mécènes, et ce sera une recherche constante. Ça peut être du mécénat financier, mais ça peut être aussi du mécénat de compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert grâce au collectif Restart.
Ah oui.
Auquel on a adhéré, donc qui regroupe une trentaine de maisons des femmes santé en France, qui nous permet et qui nous permettrait, grâce à les compétences acquises comme des community managers par exemple, qui nous semble aujourd'hui indispensable, par du mécénat de compétences. Voilà.
C'est vrai qu'on n'a pas leur antenne, mais la com c'est indispensable dans toutes les associations, toutes les structures. On peut pas passer à côté de ça. Est-ce que vous avez une anecdote, on va dire pas triste, mais plutôt gay, quelque chose qui gens qui sont passés par vous et qui il y a une résolution, on va dire, de ce qui leur est arrivé et qui sont partis, parce que la Maison des Lendemains, moi c'est comme ça que je lis le nom de votre association, c'est justement pour qu'il y ait un lendemain et que les choses ne s'arrêtent pas à un instant T où il s'est passé quelque chose.
Oui, c'est exactement ça, c'est que ça part à la base d'une citation de Victor Hugo, qui dit que toutes les violences sont un lendemain. Et ça nous paraissait important aujourd'hui, donc déjà du fait qu'on ne voit pas que des femmes, mais aussi pour donner de l'espoir. Et après 6 mois, un peu plus de 6 mois même de fonctionnement, encore ce matin, j'ai eu une dame au téléphone qui nous a dit qu'elle se demandait avant comment les gens pouvaient faire pour se reconstruire ou en tout cas débuter une reconstruction. Voilà, les personnes qui ont terminé un parcours chez nous, il y a eu énormément de bons retours, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier là donc c'est très gratifiant, et on voit l'intérêt aujourd'hui de ces structures là
On avait parlé aussi hors antenne. Moi, j'avais reçu la maison de protection des familles et ces trois chouettes gendarmettes, vraiment, à la fin, toutes les horreurs qu'elles m'ont racontées, je leur disais, mais comment est-ce que vous faites au quotidien, voilà, pour tenir le coup, hein. C'est la même chose qu'on demande aux gens qui sont des fois dans le milieu médical, aux urgences aussi, hein, ça va pas être marrant. Et donc, elle m'avait bien fait comprendre que ce qui était important, c'était l'esprit de corps, hein, c'était le groupe, le soutien du groupe, les gens se soutiennent entre eux parce que c'est pas très facile à supporter tout ça au quotidien.
Oui, alors exactement. Alors nous, on est issus des urgences, donc on connaît ça. Effectivement, cet esprit d'équipe, en fait, et ce côté très soudé d'équipe. Et là, effectivement, alors même si c'est physiquement moins pénible, la charge mentale sur ce type de structure chez nous, comme ce qui est sur l'accueil des mineurs, hein, sur l'unité d'accueil pédiatrique, sur l'hôpital, de toute façon, c'est des charges mentales intenses que tout le monde peut pas faire. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience aussi automatique pour prendre en charge ces victimes. On a des personnes dans l'équipe, pardon, qui sont très jeunes. Ça va de 25 ans à 55 ans. On voulait justement avoir une variété d'âge. Anaïs est d'ailleurs notre plus jeune infirmière. Et c'était important d'avoir aussi des professionnels de santé qui ont tout âge, parce qu'il y a des violences à tout âge. Oui, les violences évoluent. C'était important. Et on est une équipe qui est très soudée, en fait. Voilà. Donc on se voit beaucoup entre nous. On débriefe beaucoup de choses. On est toujours en lien. On fait attention à ce qui n'est pas quelqu'un qui soit justement trop impacté, parce que à la différence des structures qu'on a sur l'hôpital où on voit la victime de manière aiguë, là on va l'accompagner. Donc il faut faire attention de pas justement trop s'impliquer, ce qui est pas toujours simple. Le secret, c'est de pouvoir échanger entre nous, d'être de se voir à côté, de pouvoir vraiment être au soutien les uns des autres pour prendre en charge ces victimes.
Ouais. Et puis je rebondis sur ce que disait Anaïs, c'est vrai que avant, jadis, enfin, on en parlait moins de tout ça. Hein. Bon, il y a eu MeToo, mais même avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, 40 ans, comment est-ce que les victimes se reconstruisaient? Ben, je sais pas si elles se reconstruisaient. Et je pense justement qu'il y a beaucoup de, alors encore une fois, de femmes, ben, qui ont dû développer des psychoses, des troubles, parce qu'à long terme, elles étaient coincées dans une omerta, un silence, on disait pas, il fallait pas, il fallait pas se plaindre, etc. Et donc, je pense qu'il y a des générations de personnes, dont beaucoup de femmes, qui ont dû énormément souffrir psychologiquement, en fait, je crois.
Oui, et puis ce qu'on a vu émerger à partir de 2015, c'est la révélation des faits. Je ne pense pas qu'il y ait plus de violence. Alors, la société devient plus violente, mais notamment sur les violences intrafamiliales, je ne pense pas qu'il y en a plus. En tout cas, on les détecte plus.
Oui, bien sûr.
Et l'idée, c'est de pouvoir justement casser un peu cette espèce d'omerta qu'on avait, mais même au niveau des soignants, on pose des questions très intimes aux gens et on n'osait pas leur poser la question des violences. Il faut que nous-mêmes, on n'ait plus de problème avec ça et qu'on puisse librement demander à quelqu'un s'il subit des violences et si oui, comment l'aider, et qu'il y a des structures spécialisées. Et nous, c'est ça le message qu'on veut avoir. Mais on travaille depuis longtemps avec nos partenaires, effectivement, que ce soit la préfecture, le conseil départemental, bon, le centre hospitalier, bien sûr, qui nous soutient dans notre démarche. Petit à petit, on a mis ça, nous, en place. En tout cas, moi, j'étais un peu tout seul en 2008 quand on a commencé à faire ça. Et maintenant, j'ai une équipe dont je suis très fier. Et donc, je sais que tout le monde est impliqué avec le même objectif. C'est vraiment de prendre en charge les victimes. Donc, les choses évoluent quand même favorablement, si tout n'est pas parfait. Et qu'effectivement, nous, on aurait besoin de plus de financement et pour pouvoir financer du soin et plus de ressources humaines.
Mais
ça, on est tous à se battre pour ce genre de choses. Mais on a une équipe très motivée.
Très bien. On vous en remercie. C'est formidable ce que vous faites et merci d'être venu nous parler de tout ça et je mettrai que le podcast les liens adéquats pour que les gens puissent vous contacter. Il y aura aussi un numéro de téléphone parce que effectivement tous les moyens sont bons pour aller faire le premier pas pour vous parler, que ce soit pour soi ou pour aider un proche. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour essayer de soigner un petit peu une partie de notre société, de nos voisins, de nos amis, de nos compatriotes. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir.